Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus dans cette 8e version de Sans Accro, émission consacrée aux dépendances et aux addictions, mais surtout consacrée aux sorties d'addiction, avec des invités en studio qui viennent nous parler de la manière dont ils ont fui leurs démons. Alcool, drogue, sexe, jeux, médicaments, même shopping, soyez les bienvenus, 3, 2, 1, c'est parti.
Bienvenue dans Sans Accro, la nouvelle émission sur les dépendances et les addictions, avec Alexandre sur BXFM.
À cette petite voix douce qui introduit le sujet du jour, j'ai l'énorme plaisir de recevoir en studio Monsieur Raskinet, Gabriel de son prénom. Bonjour Gabriel.
Salut Alexandre.
Soyez le bienvenu, je suis très content de vous avoir, comme un petit peu tous les invités qui sont ici en studio, parce que la quasi-intégralité des récits qui sont relatés à ce micro sont toujours très intéressants. Je connais un petit peu votre vie, les auditeurs qui nous écoutent ne savent absolument rien de vous pour l'instant, sauf ceux qui sont très attentifs sur les réseaux sociaux actuellement, mais on va vous découvrir, on a plus ou moins 5 fois 6 minutes pour aller au plus profond de vous. Voilà, si vous me permettez ce genre d'expression. Je vais, avant toute chose, vous poser une question. Voilà, comme ça, vous êtes un petit peu bercé et rythmé. Je vais me permettre de vous poser une question qui, pour moi, est la plus importante, mon cher Gabriel. Et je vous demande d'y répondre avec la plus grande franchise et honnêteté. Comment allez-vous ?
Eh bien, très très bien.
C'est parfait, c'est le genre de réponse que j'attendais. Et dans quelques instants, je vais dresser votre portrait pour que les auditeurs puissent vous connaître. Généralement, je mets 45 secondes. Vous m'arrêtez si je me gourre, vous m'arrêtez si je ne suis pas suffisamment précis. Et si tout va bien, vous vous taisez.
Ok, vamos.
Gabriel Raskinet, il est devant moi. C'est un jeune homme, beau gosse. Hein. Tout à l'heure, on l'a croisé avec ma compagne en voiture et je l'ai montré du doigt. Elle a fait « Oh, le beau gosse !» Voilà, il a bientôt 30 ans, ce sera en mai. Il est liégeois, poète, écrivain. Alors, pour gagner sa vie, il est freelance. Il aime dire qu'il aide les dirigeants d'entreprise à valoriser leur image sur LinkedIn. Il y a du copywriting. Il vapote de temps en temps de la nicotine extra légère. Il a eu des addictions qui étaient de la cocaïne, des jeux vidéo, du porno, du MDMA ou de la MDMA et du cannabis. Gabriel Raskinet a arrêté la cocaïne en mars 2019. Ça fait bientôt 3 ans. Bientôt 4 ans. Ouh là, merci. Les maths, ce n'est pas mon fort aujourd'hui. Votre enfance dans les grandes lignes, on y reviendra un petit peu plus tard parce que c'est relativement intéressant dans votre parcours. Une famille dysfonctionnelle, vous dites. Un père alcoolique et une mère défaillante. On rentrera dans les détails. Vous êtes une des personnes les plus likées sur LinkedIn de ces 3 derniers mois. Chacun de vos posts recueille entre 300 et 6000 likes. Vous avez même des posts qui récoltent 700 000 vues à l'unité. Bon, ben voilà, dès que vous l'ouvrez sur LinkedIn, ben, les gens s'arrachent vos mots. Parce qu'ils sont vrais, ils sont justes, ils sont sincères. Bien écrire, c'est pas très compliqué. Très bien écrire, comme vous le faites, c'est un art, Gabriel. Vous écrivez juste et vrai les bons mots sur des bons sentiments. Voilà, c'était votre portrait.
Je te remercie.
Est-ce que je rajoute des éloges ou ça ?
Non, c'est très bien, ça résume... Ça permet de mettre les grandes lignes sur la table et puis de les développer par la suite. Merci beaucoup.
On va effectivement, en parlant de grandes lignes, s'intéresser surtout à votre passé qui en fréquentait beaucoup, des grandes lignes, la cocaïne. Vous avez eu d'autres addictions qui étaient peut-être un petit peu moins présentes dans votre vie, mais généralement elles sont toutes plus ou moins liées. Hein. Bon, bah, du porno, quand on est défoncé, bah, voilà, ça vient très souvent. On développera tout ça. Moi, ce que je voudrais, dans cette première partie, c'est lire un de vos posts qui a rassemblé énormément de, je ne vais pas dire de likes parce que ce n'est pas ça qu'on cherche, mais de réactions positives et bienveillantes.
Qui a suscité de l'émotion. Ouais.
Voilà, qui a suscité de l'émotion, ce qui est un petit peu votre ADN et ce que vous souhaitez partager. À la fin de la lecture de ce texte, on enchaîne sur un morceau de musique, on fait une courte pause et on se revient à vif, histoire de laisser les auditeurs profiter de la beauté de vos mots. Alors, les 25-30 ans, 35 ans se détruisent à la drogue de l'amour. La MDMA, c'est facile à avoir, ça ne coûte pas cher. Quand tes parents t'ont jamais dit « je t'aime », t'es un prospect qualifié. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. L'avantage comparé à la cocaïne, c'est que ça coûte pas cher. En boîte, 10 boîtes la pilule. Chez le dealer, tu l'as à 5. Sur le Darknet, 2 euros, la pilule. Quand t'es paumé, mal dans tes baskets, pour le vendredi soir, c'est le plan parfait. Ça te donne le gros câlin que ta mère t'a jamais donné. De ton père, la tape sur l'épaule que t'attendais. Pendant quelques heures, t'oublies tout. Tu as de l'énergie comme jamais. T'es amoureux de tout le monde, t'as 1000 idées à la seconde, tu crois que t'es un génie, t'oses exprimer ce que tu dis jamais. T'as confiance en toi, t'as de l'importance, t'existes. Tu vas te taper devant de la techno pour enchaîner des pas de danse répétitifs sur une musique que t'écouterais même pas si t'étais pas défoncé. Seulement, l'AMD, c'est une drogue. Et qui dit drogue, dit descente. Tu te réveilles à 15h le lendemain, mal au crâne, angoissé sous tes draps. Quelques sueurs du produit qui s'évaporent, ta couette et tes coussins trempés comme jamais. Ta bouteille d'eau pas loin, c'est ta meilleure amie, ta bouée de sauvetage, celle qui t'empêche de crever déshydraté et qui soulage ta bouche sèche comme le sable. Soirée Netflix, en attendant que ça passe. Une petite 16 histoire de ralentir la chute. Deux jours après, le dimanche, tu ressembles à rien. Pas capable de faire 2 plus 2 dans ta tête. Mais demain, c'est lundi, faut aller se coucher, demain tu repars au taf. T'auras zéro énergie jusqu'à mercredi, mais un seul truc en tête, jeudi arrive, tu passes commande et ça recommence. Les premières fois, tu te dis « je gère », être accro, ça n'arrive qu'aux autres. 2 ans après, t'es en plein dedans, mais tu te mens à toi-même. De toute façon, tout le monde le fait. Ça, c'était ma vie il y a 6 ans, et encore celle d'un tas de gens aujourd'hui. CEO, employé, ouvrier, freelance, du 16e à Paris jusqu'au Calanque. Alors pourquoi, c'est là que je tourne ma page,
oui, pourquoi ?
Pourquoi tout le monde se défonce comme ça, hein ? Moi j'ai capté, je suis tombé, je me suis relevé, maintenant à chaque fois que j'en vois un se défoncer, je sais ce qui lui manque, je sais ce qu'il traverse, je sais ce qu'il lui reste à faire pour aller mieux, mais j'ai pas le pouvoir de les changer. Alors je raconte mon histoire, dans l'espoir que dans leur esprit une petite graine, j'arrive à planter. Dire que la drogue c'est mal, ça ne sert à rien, ça va pas les arrêter, mais apprendre aux gens à exprimer ce qu'ils ressentent, leur apprendre à communiquer leurs angoisses, à extérioriser leurs peurs, leur apprendre à mettre des mots sur leurs blessures profondes, c'est ça la clé. Après tout, dites-moi, c'est quoi le rôle d'un psy ? C'est de vous faire parler.
Merci, merci pour cette lecture.
Gabriel, vous avez arrêté la cocaïne il y a bientôt 4 ans, et vous avez décidé de partager votre histoire maintenant sur LinkedIn et uniquement LinkedIn.
Oui, pour l'instant LinkedIn, oui.
D'accord. Et il y a une raison
Parce que c'est chronophage quand même de gérer un réseau social. Et puis, quand j'ai commencé à prendre la parole sur mes anciennes addictions et parler de ce sujet-là, je ne m'attendais pas du tout à l'élan que ça a eu. Je savais que ça pouvait susciter des réactions parce que ce sont des textes qui sortent de ce qu'on peut voir d'habitude, donc voilà, je savais que ça pouvait déclencher une réaction, mais les mois que ça a provoqué, le nombre de messages que j'ai reçus et la portée que ces messages-là ont eu, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, avec ça, avec cette portée-là, vient son lot de choses à gérer dans les messages, dans les demandes, dans les rencontres, dans les rendez-vous, etc. Des journalistes qui t'appellent pour faire des interviews. Enfin, t'as 1 milliard de trucs qui arrivent que t'avais pas prévu. Et puis, faut le temps un petit peu d'encaisser tout ça aussi et de savoir un peu comment je vais transformer, on va dire, l'essai. Parce que c'est sorti de façon un petit peu viscérale. J'avais besoin de prendre la parole. J'étais arrivé à un moment de ma vie où il fallait que ça sorte. Je voulais transformer cette histoire, ce parcours en quelque chose qui me dépasse un petit peu. Et donc, aujourd'hui, un seul réseau social parce qu'il faut que je puisse gérer tout simplement toute cette attention qui arrive vers moi et puis que je puisse aussi prendre le temps de réfléchir à comment est-ce que je vais faire les choses au mieux pour aider un maximum de personnes et que mes messages ne soient pas juste des messages qui attirent l'œil et qui suscitent des réactions, mais qui puissent être efficaces aussi pour des personnes qui soient addictes, ex-addictes ou des personnes qui sont concernées par l'addiction chez des proches ou ce genre de choses. Dans un souci d'utilité, pour l'instant, je temporise et puis on verra par la suite pour les autres réseaux et d'autres moyens de communication.
Moi, je me demandais au début s'il n'y avait pas une peur de censure par rapport à Facebook, que des termes tels que cocaïne défonce, MDMA, crack, soient bannis et que vous soyez peut-être blacklisté et que... Je me demandais si c'était pas délibéré d'avoir commencé par LinkedIn, parce que à la base, c'est pas spécialement sur ce réseau social-là qu'on va pour déballer sa vie d'ex-addict. C'est plutôt,
Je comprends.
Mais je sais que c'est une question qui vous a été souvent posée.
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que LinkedIn, c'est le réseau que je connais le mieux aujourd'hui, parce que ça fait déjà 2 ans que je suis dessus et que je partageais des communications plutôt business sur mon activité, etc. J'avais mon réseau professionnel de freelance. C'est là que C'est le réseau sur lequel j'étais le plus et que j'ai passé le plus de temps ces deux dernières années. Donc je connais les codes, j'ai un réseau dessus, des personnes qui me connaissent en dedans, en dehors. Et donc pour moi, c'était l'endroit, voilà, c'était, j'avais pas d'effort à faire, si tu veux, pour trouver un nouveau réseau social, comprendre les codes de la plateforme, etc. Donc j'avais l'outil devant moi, je savais déjà comment ça fonctionnait. Et donc du coup, le message est arrivé et je me suis servi de la plateforme que j'avais sous la main, quoi. Et après, a posteriori, tu t'en rends compte que, oui, peut-être que ça peut apporter un avantage dans le sens où des messages comme ça, on en voit très peu, même sur les autres plateformes. Et là, sur une plateforme professionnelle comme LinkedIn, où les gens, c'est plutôt du corporate et du comment est-ce qu'on monte un business, comment est-ce qu'on tisse des relations sociales, etc. Où là, on revient sur quelque chose qui est lié aux émotions, aux choses que personne ne raconte jamais, aux idées et aux pensées qu'on peut avoir dans sa tête le soir avant d'aller dormir. Et finalement, des choses qui concernent énormément de monde, comme on le sait, toi et moi. Et donc, je pense que c'est pas une question de censure et d'avoir choisi cette plateforme-là, mais a posteriori, je me rends compte que c'était même plutôt un avantage pour faire du bruit, en fait, qui n'était pas l'objectif du début, mais bon, maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne, voilà, ça a apparu comme un avantage.
Vous avez bien compris, en tout cas. La portée est retentissante, et c'est tant mieux. Gabriel, vers quel âge il commence à se dévergonder et vers quel âge il commence à trouver sur sa route l'une ou l'autre drogue?
Moi, j'aime bien de reprendre le parcours dès le début parce que, en ayant analysé, si tu veux, tout mon parcours de l'addiction, je me rends compte que la première chose, donc moi, j'ai consommé des produits pour échapper à une réalité, échapper à une douleur, à me sortir de la réalité dans laquelle je vivais. Et l'addiction à la cocaïne arrive vers les 19 ans, elle s'arrête vers les 26-27 ans. Et je me rends compte qu'en fait, un comportement addictif pour échapper à une douleur, donc échapper à un sentiment que je vivais, je l'ai rencontré vers l'âge de 6-7 ans avec la masturbation, déjà tout petit. Et puis c'est la première, je dirais, addiction pour rester dans ce cadre-là, de première addiction que j'ai pu avoir, en tout cas dans le comportement addictif. C'est-à-dire que le porno est arrivé quand j'ai reçu mon PC vers l'âge de 11-12 ans, où là j'avais déjà un comportement qui était mis en place. On est venu rajouter les shoots de dopamine que le porno peut procurer. C'est par ça que je commence. Et puis après, je rencontre les jeux vidéo à l'adolescence avec la découverte du PC. Et puis les premiers pétards et les premières bières, alcool, etc. avec les copains. Où là, je reste quand même en retrait de toutes ces choses-là parce que j'ai un père alcoolique. Donc je voyais ce que ça pouvait donner de tomber dans l'addiction à l'alcool. Et encore aujourd'hui, j'ai jamais vraiment eu de problème avec l'alcool, mais avec tout le reste, oui. Et donc là, le cannabis arrive vers l'âge de 17-18 ans. Dans un contexte de fête et d'alcool et de fumette, à un moment donné, il y a le jour où je demande à quelqu'un, t'as pas un truc pour me réveiller ou à bazar assis. Et le mec a sorti ce qu'il avait de sa poche et il m'a dit si, vas-y, fais-toi plaisir. Et c'est comme ça que j'arrive à la cocaïne, qui est la drogue qui m'a causé. Enfin, pour moi, je dis que je suis un ex-addict à la cocaïne parce que c'est celle qui a cristallisé vraiment toutes les racines, si tu veux, de l'addiction, tout ce qui fait que j'avais ce comportement addictif, etc. Tout est venu se concentrer sur la cocaïne, et c'est avec la cocaïne que j'ai, c'est la cocaïne que j'ai fait le plus. C'est celle qui m'a causé le plus de dégâts, et c'est celle qui a eu le plus d'impact sur ma vie, sur mon psychologique, etc. Voilà, il y a toujours des causes d'addiction. Mon produit principal, c'était la cocaïne.
Quel genre de consommation aviez-vous sur une semaine dite normale?
Wow, j'ai jamais vraiment vu, je peux pas vraiment faire de moyenne, tu vois, d'une semaine à l'autre, parce que ça fluctuait. Il y avait des fois où il y avait beaucoup de consommation sur très peu de jours, et puis des fois pendant une semaine ou deux, il y avait rien, pour des raisons financières, pour des raisons professionnelles, d'études, etc. Quand j'avais des examens, ce genre de choses, je consommais pas ou je consommais moins, moi je vois plutôt ça en mode... Au plus bas, c'était de l'alcool, du tabac et un demi-gramme de coke en soirée. Et au plus haut, c'était des week-ends de trois jours sans dormir avec 3, 4, 5 grammes de cocaïne, plusieurs bouteilles d'alcool et des pilules d'ecstasy à gauche, à droite. Bon, c'était pas tout le temps, mais les plus dangereuses que j'ai faites, on était de cet ordre-là, quoi, sur les dernières années.
Quand on n'a pas d'argent pour s'acheter de la cocaïne, comment est-ce qu'on fait? On peut s'en passer un soir ou deux?
On n'en prend pas, moi j'en prenais pas, ou alors je me tournais pour avoir des effets quand même, je me tournais vers des pilules, quoi, hein, des pilules d'ecstasy qui te permettent quand même d'être dans un état second, mais bon, c'est quand c'est la cocaïne, ton produit de cœur, c'est pas un bon mot, mais quand c'est la cocaïne, c'est ton produit, tu peux prendre ce que tu veux à côté, ça comblera pas ce que tu essaies de combler, tu vois. Mais je me tournais vers des trucs moins chers, quoi. Puis j'avais des prix, je payais quasiment pas les pilules ou la MDMA, je l'avais à des prix extrêmement bas, donc voilà, c'est sur ça que je me tournais.
Et donc, vous dites là dans votre publication sur LinkedIn que des pilules ou des grammes de MD, c'est 5 euros le gramme ou 5 euros la pilule, ouais, 2 euros sur le dark web.
Bon, je ne vais pas non plus aller trop loin dans les détails de ce côté-là, mais on va dire que je connaissais des personnes et que voilà, un gramme d'MDMA, je pouvais le payer 7 euros, 7,50 euros, qui se revend 30 ou 40 euros dans la rue ou même 50 euros quand tu sors des villes, etc. Voilà, tu vois, quand tu as, disons même 10 euros le gramme d'MDMA, c'est, enfin, tu vois, c'est.
Et avec un gramme de MDMA, généralement, on peut tenir quand même relativement.
Ah, si t'en prends pas.
Plus longtemps,
ouais,
que.
Si t'en prends pas souvent, ça va. Moi, j'avais des potes, ils se tapaient le gramme sur la soirée. Hein. C'est comme toutes les drogues, t'as l'accoutumance qui arrive avec le temps. Au début, il te faut quelques. Donc, la MDMA, c'est du cristal, c'est des espèces de cristaux, quand c'est en produit brut. Et tu peux prendre quelques cristaux pour donner des quantités 0,1 ou 0,2 mg. Et avec ça, en général, quelqu'un qui n'en prend pas souvent va déjà peut déjà ressentir des choses, et même des fois, ça va être trop fort. Moi, en général, je dépassais pas 1 mg d'MDMA par soirée et je le prenais en 3 ou 4 fois, quoi.
Et à ce moment-là, vous fumez du cannabis?
Non,
et...
le cannabis, j'ai fumé pendant un an. Le problème, c'est comme je mélangeais des fois cocaïne, ecstasy, alcool, tabac et cannabis, à un moment donné mon cerveau a plus du tout supporté le cannabis, et donc du coup ça me mettait directement en angoisse, en stress, etc. Ça activait mon système, j'ai oublié le nom là, mais en gros j'avais de l'inflammation, tu vois, réaction inflammatoire si tu veux au cannabis, et donc du coup plus de la paranoïa, et donc en fait quand j'ai arrêté j'ai eu un sevrage de cannabis parce que j'ai dû arrêter physiquement, j'ai senti que j'étais en manque du cannabis, mais des fois je dis que j'ai pas de mérite d'avoir arrêté ça, parce qu'en fait continuer à fumer, j'étais tellement mal à fumer du cannabis que pour moi il n'y avait pas le choix, il fallait que j'arrête de fumer ça, et puis j'y suis jamais retourné parce que la moindre petite taf me mettait dans un état d'anxiété et de parano.
Les réminiscences du passé à chaque fois, oui, je ne peux que valider, que comprendre ce sentiment. Il y avait de l'alcool?
Ouais,
peu,
quasiment
beaucoup,
tout le temps.
Passionnément.
Quasiment tout le temps. En fait, l'alcool, moi, j'ai jamais été un grand fan de l'alcool. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je fais partie de ceux des ex-addicts qui pourraient se permettre une fois de temps en temps de boire un verre d'alcool ou même de se prendre une cuite et de ne pas déborder. Mais je ne le fais pas parce que je n'aime pas ça. J'aime pas le sentiment une heure après d'avoir de sentir que le corps essaye d'évacuer un poison. L'alcool a toujours été un outil pour me désinhiber, et puis après avec la cocaïne était un outil pour contrer les effets de la cocaïne, les effets excitants de la cocaïne, et donc c'était toujours une question d'équilibre. En fait, je me mettais 4-5 verres dans la tronche avant de démarrer la soirée, puis après je commençais à prendre de la coke, et puis après toute la soirée je balançais entre de l'alcool, de la cocaïne, pour essayer de rester dans un état plus ou moins stable qui me plaisait, mais j'ai jamais aimé prendre un verre. Si je prenais un verre, c'est parce que je savais que j'allais faire la nuit derrière, quoi, tu vois. Moi, le boire de l'alcool, c'était toujours synonyme de aller plus loin après. Donc l'alcool, toujours oui, mais finalement, il a pas. Fait ça, c'est la preuve aujourd'hui, c'est que j'ai jamais de pensée vis-à-vis de l'alcool. J'ai jamais envie d'aller boire un verre. Je me dis jamais, tiens, je m'ouvrirais bien un truc. Si je reprends, c'est à un moment donné à une drogue ou quoi. C'est directement la cocaïne, quoi. Si je vois des images de cocaïne, quand j'ai des réminiscences du passé ou que je me retrouve dans un état émotionnel qui me rappelle quelque chose du passé et les éléments qui m'ont fait tomber dedans, les raisons pour lesquelles je me tournais vers le produit, c'est directement la cocaïne qui s'affiche encore dans mon cerveau, quoi, comme au-dessus de l'Olympia, en grosses lettres capitales. Bon, aujourd'hui, j'arrive à gérer les périodes, c'est peut-être pas un craving, mais j'arrive à gérer ça, et je ne passe pas à l'acte, et j'en ai pas envie, parce que ma vie aujourd'hui est assez stable, et que voilà, pour moi, le produit est derrière moi, mais non, l'alcool, pas un problème, et ça a toujours été la cocaïne, quoi.
Alors, Gabriel, certaines personnes ne savent pas pourquoi elles sont tombées dans des addictions. Certaines personnes ne veulent pas savoir pourquoi, certaines personnes ne le sauront jamais. Vous, Par contre, vous avez réussi à cibler les causes de ces addictions. Quelles sont-elles ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Très juste ce que tu dis par rapport au fait que les gens, des fois, ça peut être très compliqué. Et c'était le cas pour moi, en fait, quand on se rend compte, quand je me rends compte pour les raisons pour lesquelles j'ai commencé à consommer et ce que j'avais, le vide que j'avais besoin de combler, la douleur qu'il fallait que j'évite absolument, je peux comprendre que ce soit pas possible pour certaines personnes de regarder cette vérité en face parce que, voilà, moi je suis passé par là et je sais ce que ça coûte émotionnellement et ce que ça demande comme. Enfin, je ne sais pas si on peut dire de la force ou du courage, mais pour s'en sortir, parce que quand on est dedans, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, on n'a pas le choix. Mais moi, de mon côté, j'ai des facteurs, si tu veux, qui ont pu être, comment dire, favoriser mon addiction. J'ai un papa qui est alcoolique, qui l'a toujours été, il était déjà avant que je naisse, et il l'est toujours aujourd'hui. Donc j'ai eu cette image d'un papa qui n'était pas présent et pas en couple avec ma maman, ils étaient séparés, donc j'ai vécu éduqué uniquement... Par ma maman, et de l'autre côté j'avais mon père que je voyais une fois ou deux par semaine qui lui consomme, enfin est alcoolique, mais alcoolique le matin il se lève, il boit de l'alcool fort parce que sinon il tremble, enfin voilà, il est à un stade d'alcoolisme extrêmement avancé, donc j'avais cette image paternelle du père complètement absent qui lui aussi avait grandi avec, je vais y venir, avec une mère dysfonctionnelle, donc pas d'accessibilité émotionnelle, pas un papa qui vient te donner des conseils, être là pour toi, pas de présence quoi, une présence physique mais pas de présence émotionnelle, ni de figure paternelle, et de l'autre côté chez ma maman là c'est plus compliqué, c'est le gros morceau, une femme qui a grandi dans une famille d'immigrés siciliens extrêmement dur, des personnes, mes arrière-grands-parents sont arrivés pour travailler dans la mine, mon arrière-grand-père travaillait dans la mine et c'était des gens qui subissaient le monde et l'immigration et qui avaient une certaine dureté en eux, peut-être probablement maladives et qui l'ont reporté sur leurs enfants, les enfants les ont reportés sur les petits-enfants, et donc qui fait que moi j'ai grandi avec une mère qui a reproduit sur moi ce qu'elle avait vécu, et donc pour rester plus général, on parle de violence psychologique, à certains moments physique. Ce qui s'est passé, c'est que pendant 25 ans, en fait, moi, j'ai été éduqué, j'ai un peu l'impression d'avoir grandi dans une secte, si tu veux. Il y avait un message à la maison avec une seule vérité qui était celle donnée par ma mère. Je devais absolument répondre à toutes ces attentes, à tous ces besoins. Par contre, les miens n'étaient absolument pas comblés, quoi. Donc, en gros, c'est un peu comme tu nais à la naissance. C'est un peu comme si j'étais né à la naissance addict à l'héroïne. L'héroïne, c'est mes besoins vitaux que le parent est censé combler. Il y a eu un chantage pendant toutes ces années de mon éducation jusqu'à mes 25 ans, de si tu veux que je réponde à tes besoins d'attention, à tes besoins d'amour, à tes besoins de présence, de sécurité, il va falloir que tu me donnes ce que moi j'attends. Et donc on parle beaucoup de manipulation, de perversion aussi dans ce que j'ai pu identifier comme une source de plaisir finalement pour ma mère et la personne qu'elle est, la personnalité qu'elle a, à faire du mal aux personnes qu'il y a autour d'elle et pas que moi. C'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui, c'est parce que je sais que je divague pas, quoi. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Ce que j'ai vu qu'elle a fait autour d'elle, elle l'a réellement fait. Enfin, ce sont des faits que j'ai réellement vus. Et donc, moi, ça m'a mis dans un état de sidération, un état d'anxiété. La poitrine qui serre chaque jour de l'année, du matin au soir, des difficultés dans les relations sociales, des troubles de l'attention avec hyperactivité, des rencontres avec des psychologues, des psychiatres, etc., qui à chaque fois ne savaient pas, ne mettaient pas de mots sur le soi-disant le problème que j'avais. Et le jour où j'ai décidé de couper les ponts et de mettre un terme définitif à la relation avec ma maman, je suis né à 25 ans pour la deuxième fois. Parce que à ce moment-là, j'ai commencé à reprendre le contrôle sur ma vie, avoir du recul et de la vision aussi de l'addiction dans laquelle j'étais tombé à 19 ans. Donc, ma maman, je me rends compte de cette emprise familiale, etc. quand j'en ai 25. Et puis, si tu veux, la clarté que sortir de l'emprise m'a apporté, m'a permis après de me sortir de l'addiction, à mettre en place des choses, à travailler comme freelance, à construire des projets et à faire, en 5 ans, j'ai fait un chemin de dingue et la seule chose qui a plu dans ma vie, c'est les personnes qui étaient extrêmement toxiques et destructrices pour moi. Donc voilà un peu les raisons. J'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails, mais les grosses raisons, c'est une enfance extrêmement compliquée et voilà.
Il y a peu de chances qu'ils nous écoutent, votre papa ou votre maman.
Mon père, c'est possible qu'il écoute, et ma maman, c'est pas impossible qu'elle écoute non plus.
Vous allez leur dire.
Ma maman, c'est zéro contact. Moi, c'est par sécurité, hein, clairement, parce que
par autoprotection.
Je suis en danger, clairement. Et c'est pas que moi, je pense que les personnes qui sont autour d'elle sont en danger en sa présence. Et mon papa, par contre, on a gardé des contacts cordiaux qui sont jamais vraiment coupés. Mais voilà, comme je disais, il le sait, c'est pas un secret. On n'a pas une relation père-fils, quoi. Voilà, moi, c'est mon géniteur, mais on n'a pas de profondeur, si tu veux, dans la relation.
Un pote.
Ouais, je dirais pas ça non plus.
D'accord. Voilà, ok. T'inquiète. Gabriel, merci de répondre à mes questions depuis maintenant presque trois quarts d'heure, une heure. On va se diriger tout doucement vers le moment où tu comprends que tu n'en peux plus. Comment ça se passe,
ouais.
Ce déclic de
fin. Oui, c'est ça. Important. Et un message à faire passer là-dessus, c'est qu'en fait, surtout moi, avec le passé que j'avais, j'avais tendance à reproduire des schémas que je vivais à la maison et donc à ne pas me respecter, à ne pas mettre des limites dans mes relations sociales et donc à me tourner vers des personnes toxiques. Je connaissais ça à la maison, c'est le seul type de relation que je connaissais dans la vie. Forcément, dans la vie sociale, c'était automatique et presque obligatoire avec le parcours que j'ai eu, c'était de reproduire ça dans mes relations sociales. Quand tu ajoutes à ça de la consommation d'alcool et de la consommation de drogue, tu commences à tourner avec des personnes qui ont des intentions qui sont pas très louables. Et donc c'est ce qui m'est arrivé pendant de longues années. Par exemple, j'ai eu deux amis, on va dire très proches, plus ou moins des meilleurs amis qui n'en ont jamais vraiment été, où il y avait ce rapport un petit peu de... Enfin, il n'y avait pas de réciprocité dans la relation, et c'était moi qui aidais beaucoup ces personnes-là à résoudre des problèmes, et quand c'était moi qui avais besoin d'aide, personne pour m'aider. Et il y a toujours eu de la consommation avec ces personnes-là qui étaient des amis plus proches, et les amis de l'extérieur. Ce qui fait que je me mettais énormément en danger socialement parce que j'étais extrêmement vulnérable et je me suis retrouvé pas mal de fois dans des soirées où, ne faisant pas attention à mon environnement, ne me respectant pas moi-même, je ne donnais pas le signal que j'avais des limites. Et donc, je me suis retrouvé avec des drogues dans mon sang qui m'avaient été administrées à mon insu. J'ai le souvenir de quatre fois où c'était des cannabinoïdes de synthèse. Je l'ai compris par la suite, mais en gros, dans des joints, il y avait des liquides toxiques, donc du cannabis de synthèse, soit en liquide ou en poudre, ça je n'ai jamais su. Mais ce qui fait que je me suis retrouvé plusieurs fois avec ce truc-là parce que je l'avais fumé ou parce qu'on l'avait mis sur mes clopes, etc. La troisième fois que ça m'arrive, je suis dans une soirée, ça fait trois jours qu'on fait entre guillemets la fête avec plusieurs personnes. Et dans l'appart dans lequel on était, je me retrouve chez la personne en question. On boit de l'alcool, il rachète un gramme de coke, et on arrive vers 1h ou 2 du matin. Trois potes à lui, donc on était que tous les deux chez lui, trois potes à lui arrivent pendant la nuit pour boire un verre, dire bonjour. En 10 minutes, montre en main, enfin 10 minutes après, je me souviens d'avoir ma clope au bec et de la mettre dans le cendrier. Et là, bam, j'ai mes jambes qui se dérobent, la vue qui se brouille, j'ai mon cœur qui commence à monter en tachycardie, sentiment de paralysie et de confusion totale. Je vois le canapé, je plonge dans le canapé. Et là, je me dis, putain, il y a un problème, quoi. Parce que là, c'est un effet d'une drogue que je connais pas. Je suis en panique, en parano. Pourquoi ils m'ont fait ça? Qu'est-ce qui va m'arriver? Enfin, tu vois, je suis vraiment dans une situation de stress intense. Et ma question, c'est, putain, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi, en gros. Et pour finir, donc, je passe rapidement, mais je me retrouve dans ce divan-là et je fais semblant d'être sur mon téléphone pour essayer de leur faire croire que je suis toujours alerte et que finalement, si leur but, c'était de vraiment me mettre KO, qu'ils n'ont pas réussi, de faire genre, j'envoyais des messages, tu vois, pour essayer un petit peu de désamorcer une situation. Alors, est-ce que c'était vraiment leur attention? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu de la paranoïa? J'en sais rien par rapport à ça. Tout ce que je sais, c'est que les effets, je ne les avais pas demandés. Que les effets physiques, je les ai bien vécus. Et donc du coup, 3-4 heures, enfin pour finir, la soirée avance et je me retrouve Je me retrouve là-bas à arriver à sortir de l'appartement parce que je demande à sortir. Et le lendemain, et je rentre chez moi, je me regarde dans le miroir, j'ai une espèce de pâte bouche qui traverse toute la bande. Enfin, de l'acide dans la bouche, quoi. De l'acide dans la bouche, dans le corps, un truc mais absolument invraisemblable. Et là, j'ai pris un énorme choc parce que je me suis rendu compte que j'étais allé trop loin et que je m'étais mis beaucoup trop en danger. Et que, bah, voilà, que ça allait plus pouvoir continuer comme ça, quoi. Que j'étais allé. Enfin, voilà, je me suis fait peur et je me suis servi un peu de cette histoire là comme déclic en me disant bon c'est bon, t'as fait le tour là, ça fait 6-7 ans maintenant que tu fais ce genre de soirée, maintenant aujourd'hui tu t'es mis trop en danger, cocaïne et mauvaise relation, il faut que ça s'arrête. Et ça a été mon tremplin en fait vers la sortie.
C'est à ce moment là que vous avez touché votre fond.
Ouais, c'est ça, ce soir là ouais.
Et donc vous expliquez aussi que vous avez mis 2 ans pour arriver et que vous devez votre réussite de sortie d'addiction à 5 choses. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est les témoignages avec les consultations des 50e page sur Google.
J'ai lu beaucoup de témoignages, j'ai regardé plein de pages internet, des émissions télé comme ça, que ça commence aujourd'hui. Enfin voilà, le témoignage expérientiel en fait a été un très gros soutien à l'époque où j'étais vraiment dans le dur.
L'écriture.
L'écriture aussi,
le sport.
Pour extérioriser, le sport pour reprendre confiance en moi.
L'arrêt de l'alcool.
Ouais, l'arrêt de l'alcool, mais ça, pour moi, c'était pas vraiment un effort, mais la méditation aussi, qui m'aide beaucoup à canaliser un petit peu les émotions, etc., à l'heure d'aujourd'hui.
Donc, cette émission touche à sa fin. Malheureusement, hein, on a encore 150 millions de questions à vous poser. Par contre, si nos auditrices et nos auditeurs sont intéressés de suivre votre parcours, parce que vous n'êtes qu'à l'aube de vos partages, de vos expériences, et surtout de vos ressentis. J'ai dit tout à l'heure que vous aviez une belle plume parce que vous arrivez à retranscrire sur papier et sur réseaux sociaux les émotions que vous avez vécues. Et donc, si on est intéressé de vous suivre, on vous retrouve sur votre compte LinkedIn, ouais. Gabriel Raskinet avec un K. Là, vous y partagez vos expériences, vos futurs projets et vous avez la grande humilité et sagesse de ne pas vous brûler les ailes malgré que chaque post atteint entre 500 et 10 000 likes et 700 000 vues sur LinkedIn, ce qui est énorme. Vous pourriez être tenté d'aller voir partout et d'essayer de faire de l'argent ou n'importe quoi. Non, vous restez comme ça parce que pour l'instant, ça vous échappe un peu. Vous canalisez le tout, vous consolidez le tout et...
Ouais, c'est ça, je canalise le tout. Comme je disais, l'important aujourd'hui, c'est d'être le plus efficace possible sur le long terme. Et donc, il y aura des présences sur d'autres réseaux sociaux, il y aura une écriture de livres, des conférences, des témoignages dans les écoles, etc. C'est sûr et certain. Maintenant, je me laisse un petit peu de temps pour construire tout ça tranquillement. Et donc, pour l'instant, où est-ce qu'on peut me joindre et suivre, on va dire, mes aventures, c'est sur LinkedIn, en effet. Voilà.
Merci beaucoup, Gabriel. C'est un sentiment de trop peu, mais bon, c'est toujours comme ça. Et de toute façon, on vous suit à la lettre et on se fera un plaisir de vous réinviter pour avoir la suite aventures.
Quand tu veux, un grand merci de m'avoir accueilli ici à Bruxelles et à la prochaine.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonne fin de journée, bonne fin de soirée. C'est selon. On se retrouve lors de la prochaine émission. Merci à Thierry Léonis pour la réalisation de cette émission. Bonne fin de journée. Bye bye.
Ciao, ciao.
Des questions sur vos addictions ou simplement l'envie de témoigner? Laissez un petit message sur la page Facebook Alexandre B. Coaching.